Il était obsédé par les diverses manières dont il percevait l'univers, flou et précis dans le même temps. Il le voyait in situ. Pourtant, quand il était né, quand les pressions de la réalité avaient commencé de s'exercer sur lui, le « maintenant » avait eu sa vie propre et s'était mis à croître avec ses différences particulières et subtiles. Le but terrible demeurait, ainsi que la conscience raciale, et les dominants, sanglants et sauvages, le djihad. Shiny le rejoignit au dehors, les bras serrés sur sa poitrine, elle le regarda en biais, ainsi qu'elle le faisait toujours quand elle cherchait à deviner son état d'âme. « Parle-moi encore des eaux de ton monde natal, Ouzoul, » dit-elle. Il comprit qu'elle essayait de le distraire, d'apaiser les tensions de son esprit avant la dangereuse épreuve. Le ciel devenait plus clair maintenant. Et Paul vit que certains de ces Fedaïkin démontaient déjà leur tente. « J'aimerais mieux que tu me parles du Sietch et de notre fils, » dit-il. « Est-ce qu'il tyrannise toujours ma mère ?»«
Et Alia tout aussi bien. Il grandit vite.
Comment est-ce dans le sud ?»«
Lorsque tu chevaucheras le faiseur, tu le verras toi-même.
Mais j'aimerais d'abord le voir par tes yeux. »
« C'est terriblement désolé, » dit-elle.
Il tendit la main vers son front et toucha l'écharpe neujonnie qui sortait du rabat de son distille.
« Pourquoi ne me parles-tu pas du Sietch ?»« Je t'en ai déjà parlé. Sans nos hommes, c'est un endroit bien désert. C'est un lieu de travail. Nous passons nos heures dans les ateliers. Il faut fabriquer les armes, planter des sondes pour la prévision du temps et récolter l'épice pour les tribus. Les dunes doivent être ensemencées afin de les maintenir. Il faut confectionner des tissus, des tapis, charger les cellules à carburant et former les enfants afin que la puissance de la tribu ne diminue jamais.
Il n'y a donc rien de plaisant dans le Sietch.
Les enfants, nous observons les rites. Nous avons suffisamment de nourriture. Parfois, l'une d'entre nous peut se rendre dans le nord afin de retrouver son homme. La vie doit continuer.
Ma sœur, Alia, est-elle acceptée par les gens ?
Dans la clarté grise de l'aube, Shiny lui fit face, le regard triste. C'est là une chose dont nous discuterons un autre jour, bien-aimé.
Discutons-en maintenant.
Tu devrais garder tes forces pour l'épreuve.
Il vit qu'il avait touché quelques points sensibles. La voix de Shiny était soudain lointaine. L'inconnu, dit-il, apporte ses propres peines.
Shiny acquiesça. Il subsiste encore une certaine incompréhension due à l'étrangeté d'Alia. Les femmes la craignent parce qu'une enfant, presque un bébé, ne devrait pas parler de choses que seul un adulte peut connaître. Elles ne comprennent pas que ce changement qui s'est produit dans la matrice a rendu Alia différente.
Des ennuis, demanda Paul.
Songeant, j'ai eu la vision d'ennui sur Alia. Le regard de Shiny se porta sur la ligne claire du soleil. Certaines des femmes se sont rassemblées pour en appeler à la révérende mère. Et elles lui ont demandé d'exorciser le démon qui est dans sa fille. Elles ont cité l'écriture. Point ne tolérera sorcière parmi nous.
Et que leur a dit ma mère ?
Elle leur a récité la loi et les a renvoyées dans la confusion. Elle leur a dit, si Alia est source d'ennui, la faute en revient à l'autorité qui n'a pas su prévoir et prévenir ses ennuis. Puis elle a essayé de leur expliquer de quelle façon le changement avait agi sur Alia, à l'intérieur de sa matrice. Mais les femmes étaient furieuses parce qu'elles étaient confuses et elles sont reparties en maugréant.
Alia provoquera des troubles, pensa Paul. Un souffle cristallin de sable lui effleura le visage, apportant la senteur de la masse d'épices en gestation. « El Sayal, dit-il, la pluie de sable qui apporte le matin. » Son regard courut sur le désert baigné de lumière grise, sur le paysage qui dépassait toute désolation, sur ce sable qui était l'image de la forme éternellement absorbée et recréée. Des éclairs jaillirent dans une île d'ombre au ciel du sud, révélant la formation d'une tempête dans cette direction.
Longtemps après vint le grondement du tonnerre. « La voix qui magnifie la terre !» dit Shiny. Les hommes quittaient leur tente. Les gardes revenaient de leur poste. Leurs gestes étaient lents. C'étaient ceux d'une routine ancienne pour laquelle tout ordre était inutile.
« Donne aussi peu d'ordre que possible, » lui avait dit son père autrefois. « Dès que tu auras donné des ordres sur un sujet, tu devras sans cesse donner des ordres sur ce point. »
Les Fremen connaissaient d'instinct cette règle. Le maître d'eau de la troupe entonna son chant du matin, y ajoutant les paroles rituelles qui préludaient à l'initiation de celui qui allait chevaucher le faiseur.
« Le monde est une carcasse !» psalmodiait l'homme par-dessus les dunes. « Qui peut repousser l'ange de la mort ?»« Ce qu'a décidé Shai Holod doit être !» Paul écoutait et reconnaissait les paroles qui étaient les premières du chant de mort des Fedaikin, ce chant de mort qu'ils entonnaient en se lançant dans la bataille.
« Y aura-t-il un mausolée de rocher ici pour marquer le départ d'une âme nouvelle ?» se demanda Paul. Dans l'avenir, les Fremen s'arrêteront-ils ici pour ajouter une autre pierre et penser à Muad Dib qui mourut en ce lieu ? Il savait que cela faisait partie des avenirs possibles qui irradiaient à partir de ce point précis de l'espace-temps. La vision était plus imparfaite que jamais. Plus il résistait aux buts terribles et luttait contre la venue du djihad, plus le tourbillon s'accélérait. Son avenir tout entier était comme une rivière qui se ruait vers un gouffre, un nexus de violence au-delà duquel tout n'était que brume et nuée. « Stilgar arrive, » dit Shiny. « Je dois me séparer de toi maintenant, bien-aimé. Il faut que je sois à la Sayadina et que j'assiste au rite afin qu'il soit rapporté en toute vérité dans les chroniques. » Elle le regarda et pendant un instant, elle se sentit faiblir. Puis elle retrouva son contrôle. « Quand cela sera fini, je préparerai le repas de mes mains, » ajouta-t-elle. Et elle s'éloigna. Stilgar arrivait. Ses pas soulevaient de légers nuages de sable farine. Ses yeux sombres étaient fixés sur Paul. La barbe noire qui apparaissait au-dessus du masque du distil, les joues ridées semblaient sculptées dans quelques rochers par le vent du désert. Il portait la bannière de Paul, verte et noire, dont la hampe recelait un tube à eau, la bannière qui, déjà, était légendaire. Avec une trace d'orgueil, Paul songea « Je ne peux faire la plus simple des choses sans que cela devienne une légende. Ils auront noté la façon dont j'ai quitté Shiny, dont j'ai accueilli Stilgar. Tout ce que je fais aujourd'hui, que je meure ou que je vive, cela sera une légende. Il ne faut pas que je meure, car la légende resterait seule et rien ne pourrait plus empêcher le djihad. » Stilgar planta la bannière dans le sable à côté de Paul et laissa retomber ses bras. Ses yeux bleus ne sillaient pas. Paul songea que ses propres yeux, peu à peu, assumaient cette couleur née de l'épice. « Il nous refuse le hajj, » dit Stilgar avec la solennité qu'imposait le rituel. Ainsi que Shiny le lui avait enseigné, Paul répondit « Qui peut refuser à un Fremen le droit de marcher ou de chevaucher où il le désire ?»«
Je suis un Naïb, » dit Stilgar, « que l'on ne prend jamais vivant. Je suis un pied du tripode de la mort qui va détruire nos ennemis. »
Le silence s'établit alors entre eux. Paul regarda les autres Fremen rassemblés sur le sable, plus loin, immobile pour cet instant de prière. Et il pensa que les Fremen étaient un peuple qui vivait par le meurtre, un peuple qui n'avait connu que le chagrin et la rage jour après jour, qui n'avait jamais songé qu'il pût exister autre chose, si ce n'est le rêve que leur avait donné Liet Kynes avant de mourir.
« Où est le Seigneur qui nous a conduits à travers le désert et les puits ?» demanda Stilgar.
« Il est toujours avec nous, » chantèrent les Fremen.
Stilgar raffermit ses épaules, s'avança plus près de Paul et dit à voix basse
« Maintenant, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Il te faut agir simplement et directement, sans la moindre fantaisie. Chez nous, nous chevauchons le faiseur à l'âge de 12 ans.
Tu as presque 6 ans de plus. Tu n'as pas à impressionner qui que ce soit par ton courage. Nous savons que tu es brave. Tout ce que tu dois faire, c'est appeler le faiseur et le chevaucher.
Je me souviendrai, dit Paul. J'y compte bien. Je ne tiens pas à ce que la honte retombe sur mon enseignement.
Stilgar sortit une tige de plastique longue 1 mètre environ de sous sa robe. Une extrémité était en pointe, l'autre était munie d'un clapet monté sur ressort.
J'ai préparé ce marteleur moi-même. Il est bon. Prends-le.
Paul sentit sous sa main la matière douce et lisse de l'objet, sa tiédeur.
C'est Chichakli qui a tes hameçons, reprit Stilgar. Il te les donnera lorsque tu seras sur cette dune, là-bas.
Il tendit la main vers la droite.
Appelle un gros faiseur, Uzul. Montre-nous le chemin.
La voix de Stilgar était à la fois solennelle et pleine de l'inquiétude d'un ami. À cet instant précis, le soleil apparut sur l'horizon. Le ciel prit la teinte gris-bleu argentée qui annonçait une chaleur extrême.
« Voici le jour brillant, » dit Stilgar,
et sa voix avait toute la solennité du rite.
« Va, Uzul, et chevauche le faiseur, sillonne le sable comme le chef des hommes. »
Paul salua sa bannière qui maintenant pendait inerte. Le vent de l'aube était mort. Il se tourna vers la dune que Stilgar lui avait désignée, un simple monticule de sable dont la crête dessinait un S. Déjà, une grande partie de la troupe s'était massée dans la direction opposée, au flanc de la dune qui avait abrité le camp. À l'écart, un seul homme se tenait sur le chemin de Paul. Seuls ses yeux étaient visibles entre le masque et le rabat de son distir. Chichakli, chef de groupe des Fedaïkin. Comme Paul approchait, il lui tendit 2 tiges minces, pareilles à des fouets, longues d'environ 1,50 m. Des crochets de cristacier luisaient à une extrémité. L'autre avait été râpé pour permettre une meilleure prise. Paul les prit toutes 2 dans sa main gauche, comme le voulait le rituel.
« Ce sont mes propres hameçons, » dit Chichakli d'une voix rauque. « Ils ne m'ont jamais trahi. »
Paul hocha la tête en silence avant de reprendre son chemin. Sur la crête de la dune, il se retourna. La troupe tout entière se rassemblait comme une nuée d'insectes. Paul était seul maintenant, avec l'horizon de sable en face de lui, plat, immuable. Stilgar lui avait choisi une bonne dune, plus haute que toutes celles qui l'entouraient. Il se pencha et planta le marteleur dans le versant exposé au vent, là où le sable plus compact transmettrait le martèlement avec plus d'intensité. Puis il hésita, se remémorant ses leçons et les impératifs de vie et de mort qu'il allait affronter. Lorsqu'il presserait la détente, le marteleur commencerait à lancer son appel. Quelque part dans le sable, un faiseur entendrait et viendrait. Paul savait qu'avec les tiges à hameçon, il pouvait chevaucher un anneau de verre géant. En effet, aussi longtemps que l'anneau était maintenu par l'hameçon et que sa face interne était soumise au souffle abrasif du sable, le ver ne replongeait pas dans le désert. Il levait son corps gigantesque afin d'élever aussi haut que possible le segment ouvert.
« Je suis un cavalier des sables, » se dit Paul.
Il regarda les hameçons dans sa main gauche. Il lui suffisait de les fixer au corps immense d'un faiseur pour que la créature tourne et se déploie à sa guise. Il avait déjà vu faire cela. Il avait accompli de courts trajets au flanc d'un faiseur, mais il était possible d'aller très loin, jusqu'à ce que la créature s'effondre d'épuisement. Alors, il fallait appeler un nouveau faiseur. Lorsqu'il aurait triomphé de cette épreuve, Paul le savait, il serait digne d'accomplir le voyage de 20 marteleurs jusque dans les territoires du sud, libre de se reposer dans les nouvelles palmeraies et les sièches où l'on avait emmené les femmes et les enfants pour échapper au pogrom. Levant la tête, il regarda vers le sud, se souvenant que le faiseur qui allait surgir de l'ergue était un facteur inconnu, de même que lui qui l'appelait pour cette épreuve.
« Tu dois calculer avec soin son approche, » lui avait dit Stilgar. « Restez assez près afin de pouvoir le monter quand il passera, mais assez loin pour n'être pas englouti.
Paul se décida soudain et déclencha le marteleur. Le clapet se mit à tourner et à frapper le sable.
Foum, foum, foum.
Il se redressa et son regard courut sur l'horizon. « Examine soigneusement sa ligne d'approche, » avait dit Stilgar. « Souviens-toi qu'un ver demeure rarement invisible en arrivant sur un marteleur. Écoute également. Il se peut que tu l'entendes avant même de le voir. » Et au creux de la nuit, Shiny lui avait murmuré
« En te plaçant sur le passage du faiseur, il faut que tu restes absolument silencieux. Il faut que tu penses comme le sable, que tu deviennes une petite dune. »
Lentement, son regard parcourait l'horizon. Il écoutait, guettait les signes qu'on lui avait indiqués. Et cela vint du sud-est. Un sifflement lointain, un murmure de sable, un chuchotement. Puis il vit la dune qui courait dans la clarté de l'aube et songea qu'il n'avait encore jamais rencontré de faiseur aussi énorme, qu'il n'en avait même jamais entendu parler. La créature devait mesurer plus d'une demi-lieue et la vague de sable soulevée par sa tête était comme une montagne en marche.
« Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie ou mes visions, » se dit Paul.
Il s'élança au devant du ver pour se mettre en position, entièrement absorbé par les impératifs de cet instant.